Dan Gagnon pour le podcast tout seul, le numéro 33. Aujourd'hui, il va être question de culture parce que les artistes sont fâchés. Mais honnêtement, je peux comprendre, avec le déconfinement, avec les annonces des différentes subventions, des aides qui sont fournies aux différents secteurs, que ce soit en France, au Canada ou en Belgique, je connais beaucoup moins la Suisse, on voit une certaine disproportion entre la quantité de millions offerts au secteur de l'aviation, par exemple, automobile, et au secteur de la culture. Et il y avait entre autres Myriam Leroy, qui a fait un super papier, je trouve, pour la première, donc en Belgique, qui explique en gros déjà parler d'artistes subsidiés. C'est quand même vachement insultant parce que on parle pas de compagnies d'avions subsidiées, on parle pas de compagnies automobiles de presse écrite subsidiées, on va juste donner leur nom. Le fait de rajouter subsidié, ça fait comme si l'artiste était un mendiant. Et c'est vrai que dans l'esprit collectif, si un artiste dit « Ah, donnez-moi de l'argent pour que je crée », la première image qui vient en tête en général, c'est quelqu'un qui écrit une pièce de théâtre de merde que personne ne veut aller voir et tu dis « Mais putain, si tu fais de la culture pour une personne, on s'en fout, on va pas payer pour toi, fais quelque chose de bien, les gens vont venir te voir. » Ça, c'est l'argument économique, mais l'argument économique ne tient absolument pas la route. Il y a des pays comme l'Espagne ou les Pays-Bas qui ont décidé de carrément monitorer le retour sur investissement économique de la culture. C'est-à-dire, à chaque fois que j'investis un euro, combien revient dans ma poche? Au Québec, selon des derniers rapports que j'ai pu lire du ministère de la Culture et des Communications, c'était plus ou moins 10 milliards de retombées culturelles pour 1 milliard d'investis par l'État, fois 10. Les compagnies d'avions, les compagnies automobiles, non seulement n'ont pas cette retombée-là, mais l'argent va à certains endroits quand il y a des retombées. Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je vois que tout le monde cherche des solutions. Derek Frenette, un humoriste québécois, disait, j'en ai un peu marre qu'on demande aux artistes de se réinventer alors qu'on ne demande pas aux autres entreprises de se réinventer, que ce soit, encore une fois, les avions, l'automobile, même le monde du sport. On fait juste comme, recommencer à mettre de l'argent. Parce qu'évidemment, tu te dis, si on n'a pas de compagnie d'avion, ça va être chiant. Si on a 6 auteurs de théâtre en moins, on va s'en remettre. Et donc, on a l'air d'être quand même un peu coincé dans cette situation-là. Moi, j'avais 2 réflexions par rapport à ça. La première, c'est je crois qu'on doit ajuster un détail, le produit que l'on fait. C'est pas, même si tu fais du spectacle vivant, c'est pas le spectacle vivant, ton produit. Et j'utilise volontairement des termes mercantiles parce que c'est ça le problème. Il n'y a pas d'artiste qui se plaint de pas trouver assez de bons co-auteurs ou de pas avoir assez d'idées de films ou de livres ou que sais-je. Quoi. C'est comment faire de l'argent avec ça. Et je pense qu'à partir du moment où tu vois le spectacle vivant comme étant pas ton produit, mais ta vitrine, ton produit, ce sont tes idées, ce que tu es capable de créer. Après, ce sont des réseaux de distribution. Donc déjà, c'est la première chose. Évidemment, tu dois aider le réseau de distribution. Si une salle tombe, c'est pas le riche propriétaire de la salle qui tombe, c'est tous les gens qui sont payés par cette salle, donc par les spectacles, qui tombent. Mais c'est deux, pour moi, problèmes absolument complètement séparés. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est en gros, si ce n'est qu'un problème d'argent et que les artistes regardent les autres secteurs d'activité et disent ben, « eux ont de l'argent et pas nous ». Mais il me semble que en tant qu'artiste, on est quand même supposé être des créatifs. On est quand même supposé être des gens qui avons des idées. Qu'est-ce qui fait que nous, on a l'air de faire la manche alors que les autres ont l'air de bravement demander à ce qu'on sauve des milliers d'emplois. D'ailleurs, une chose moi, qui me fascine depuis que je suis tout jeune, quand t'entends « Ah, le gouvernement a sauvé telle usine de la fermeture en réinvestissant massivement » et tu vois que c'est une usine de choses dont les gens ont absolument plus besoin, tu fais « Non, tu viens de me mettre sur respirateur artificiel » et je trouve que c'est hyper violent, même psychologiquement. Si moi, je travaille dans une usine, je ne sais pas, qui fait des fers à cheval. Et un fer à cheval vendu par seconde en 1918, puis tout à coup, on en vend un par 10 jours en 2020. Si le gouvernement sauve nos emplois, Ils ne sauvent pas nos emplois. Déjà, ils sauvent la face. Ils évitent une tempête médiatique, mais ils nous confinent vraiment dans un rôle de « j'appartiens au passé ». Donc voilà, j'ai jamais été super fan de cette logique-là, mais elle passe. On est habitué d'entendre cette narration-là et c'est comme ça qu'on apprend de toute façon. On apprend toujours en amenant les informations qu'on reçoit et les plaçant dans une histoire. Et donc, on va le placer dans une histoire qu'on connaît déjà. Gouvernement, argent, usine. Gouvernement a sauvé 3000 jobs. 3000 familles qui vont aller mieux. Même principe, la narration du patron d'entreprise qui demande l'aide du gouvernement, c'est « je veux sauver des jobs, je veux sauver des familles ». Je dis pas que c'est toujours vrai, toujours faux, peu importe. Ce que je parle, c'est la narration. Et la narration de l'artiste ne marche pas. Quand l'artiste dit « faut subsidier la culture, faut subventionner la culture, faut donner de l'argent à la culture », quelle est la première image qui nous vient en tête? Un nulos qui a écrit une pièce de théâtre dont tout le monde se contre-cogne et qui n'arriverait pas à vivre de son art parce que tout le monde s'en fout de son art. Et tant que tu utilises les mêmes arguments, les arguments vont être placés dans la même suite logique, narrative par tout le monde. Tu ne peux pas changer ça, donc tu dois changer la manière de faire, la manière de te présenter. Ce que j'ai vu dernièrement, c'était, je trouvais assez intéressant, arrêter de dire « Ah, on a financé à hauteur de 200 millions de compagnies d'avions et la culture à hauteur de 25 millions parce que ça met la culture dans une logique mercantile. » Alors qu'on devrait juste, par essence, sauver chacun des secteurs, par décence, aider chacun des travailleurs. J'ai peut-être totalement tort. Les gens qui ont dit ça ont beaucoup plus de réflexion là-dessus que moi, donc je vais me mettre en mode brouillon. Mais je suis absolument pas d'accord avec ça parce que, encore une fois, qui distribue l'enveloppe? Des politiciens. Les politiciens prennent leurs décisions en fonction de quoi? La pression qu'ils ressentent de la population. L'utopie, c'est vraiment, ils représentent la population. La vérité, c'est probablement plus. Si 100% des gens disent « Ah, donner une augmentation de salaire aux infirmiers, ben, ils vont le faire ». Leur boulot, c'est de garder leur boulot. Et leur façon de garder leur boulot, c'est d'être populaire. Donc, tout ce qui est populaire met une pression sur les gens qui prennent des décisions. Je comprends qu'en ce moment, on donne des augmentations de salaire aux gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Mais eux, ils doivent se dire, genre, « Hey, bitch, tu croyais que je faisais quoi, genre, avant? » J'ai dit, « Me donne une augmentation, parce que oui, je fais plus d'heures, mais... » Vraiment, je suis porté en héros parce que je sauve des vies, mais les gros édifices en cube blanc, tu voyais un peu partout, tu croyais que c'était quoi? Des McDo déguisés? Je disais, c'est ça notre job, littéralement, c'est ça notre job, soigner des gens depuis le début. C'est pas parce que tu t'en rends compte maintenant qu'on a commencé à le faire maintenant. Et tant mieux pour eux qui récupèrent des sous avec le travail qu'ils font, on parle de services essentiels, et c'est super. Mais il y en a deux, trois qui doivent se dire quand même, vous foutez de ma gueule. Hein? Ce que je veux dire, c'est que leur réalité n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'histoire, la narration, le contexte. Et pour vous donner une idée de l'importance du contexte, il y a une étude qui est absolument fascinante, qui a été menée par, en partant du principe du bon samaritain. Et l'étude était toute simple, en gros. Des gens qui étudiaient pour des études de théologie. Est-ce qu'ils voulaient devenir curé, prêtre? Je me souviens plus, mais bref, en études de théologie. On les divisait en deux. Ils rencontraient un professeur, puis le professeur disait au premier groupe, « Ah, lis ce passage, et après, t'es attendu pour donner une conférence ou une présentation à l'autre bout du campus. » Et un premier groupe, donc, lisait l'histoire du bon samaritain d'abord, et l'autre groupe ne lisait pas l'histoire du bon samaritain. Ensuite, ils faisaient le trajet du building A au building B. Et sur le chemin, qu'est-ce qu'il y avait? Évidemment, quelqu'un en détresse, genre couché par terre. Et le questionnement autour de l'étude, c'était, est-ce que le fait d'avoir lu l'histoire du bon samaritain d'abord va influencer le comportement de la personne? Elle s'est fait rafraîchir la mémoire. Ce sont des gens qui étudient en théologie. Normalement, c'est une histoire qui doit connecter avec elle. Est-ce que ça va changer la propension qu'ils auront à aider la personne qui est au sol? Et ils ont ajouté un autre facteur tout simple, c'est-à-dire que pour une partie des étudiants, donc mélanger ceux qui avaient lu et pas lu le Bon Samaritain, au moment de démarrer, le professeur disait « Oh shit, on est en retard, t'es attendu genre depuis 2 minutes. » Et dans l'autre cas, il disait « On est un peu à l'avance, mais partons quand même. » Et bon, clairement, vous voyez où je veux en venir avec ça. Le fait d'avoir lu ou pas le Bon Samaritain n'a absolument pas eu d'influence sur le fait d'aider ou ne pas aider la personne qui était en détresse. Est-ce qu'il y a eu de l'influence? Le fait d'être en retard ou le fait d'être en avance? Parce que c'est ça le pouvoir du contexte. Le contexte va changer beaucoup plus le comportement d'une personne que ses valeurs profondes. Et c'est encore dans The Tipping Point que j'ai lu ça de Malcolm Gladwell, qui disait, c'est pour ça que nous, on a tendance à définir en des termes absolus les gens qu'on connaît. On va dire, ah, mon frère, c'est quelqu'un de généreux. Mais il est peut-être généreux avec toi, il ne l'est peut-être pas avec d'autres. Mais tu ne vas jamais dire, mon frère est généreux avec moi, pingre avec un tel et neutre avec tel autre groupe. On définit les choses en termes absolus. Mais le contexte est important pour pouvoir changer une histoire. Donc, le contexte a changé pour le personnel hospitalier. L'histoire était la même. Ils ont obtenu des choses qu'ils demandent depuis des années et des années. Je sais que c'est le cas au moins en France et en Belgique. J'imagine que c'est la même chose au Québec. Donc, tout ça pour revenir avec la culture. Dans un contexte où, actuel, on parle de services essentiels et non essentiels. Alors qu'on sait, au Québec par exemple, qu'un milliard investi dans la culture rapporte 10 milliards. Ce qui est mieux que la plupart des industries. L'industrie culturelle est dans le top 3 des industries qui font vivre les gens. France, Belgique, Canada, je crois, Europe aussi de manière générale. Du pourcentage du PIB, c'est entre 3 et 5, 6%, dépendamment des études que tu regardes en fonction des pays. Donc c'est hyper important. Mais c'est quoi le contexte? On est dans une situation d'urgence. Les artistes, ce sont des saltimbanques, c'est du divertissement. Et surtout, surtout pour moi, une des choses qui prime le plus, c'est qu'en théorie, si t'es artiste, t'aimes ton boulot. Et donc, tous ceux qui n'aiment pas leur boulot se disent que si t'es artiste, t'as de la chance. Donc, t'as moins besoin d'être aidé. Au lieu de faire un vrai métier, t'as décidé de faire un loisir, eh bien, t'as un avantage. L'inconvénient qui vient avec, c'est que t'auras peut-être pas de pognon. Donc, tu vas pas, en plus de faire ce que t'aimes, recevoir l'argent gagné par ceux qui font un boulot qu'ils n'aiment pas. Je suis évidemment pas d'accord avec ce que je viens de dire. Sauf qu'avec quoi tu te bats? Tu te bats avec l'opinion publique. Si 100% des gens trouvent qu'il faut financer les artistes vont être financés plus. Il y a déjà tellement une occasion ratée. Pendant les 2 mois de confinement, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont bouffé du Netflix comme des fous. Des films, des livres, des séries, de l'alcool. C'est à peu près de la bouffe. C'est pas les 5 choses que les gens ont bouffé. Quand je dis de mettre la pression, il y a personne qui a réussi à mieux la mettre pour moi qu'un groupe à Toronto. Dans les années 80, 90, 90, les éboueurs de la ville étaient en conflit avec la ville pour une augmentation de salaire depuis un certain moment. Négociations bloquées. Les éboueurs ont attendu une canicule et ils n'ont pas ramassé les poubelles. Canicule, poubelle au chemin, je vous laisse deviner la vitesse à laquelle le problème a finalement été réglé. Confinement, tout le monde se rue sur la culture. Si tout à coup, il n'y en a plus. Si tout à coup, tout est coupé. Plus d'humoristes qui font des blagues. Plus de gens qui lisent des livres. Voilà. Finalement, c'est pas possible d'effacer des livres. Je suis pas con, tu peux pas bloquer Netflix. Hein. Le point étant, si tu recherches un impact, l'impact doit être fait au moment où l'effet va être maximal. Et là, l'effet aurait été maximal. S'il y avait eu une grève absolue et que plus aucun produit culturel existait, et qu'à ce moment-là, la culture se retourne vers le gouvernement en disant « C'est comme vous voulez. Si vous voulez qu'on recommence à faire des trucs, juste à nous le dire et nous glisser une petite enveloppe et on va recommencer. » Le gouvernement va dire « Non, nous ne négocions pas avec les terroristes. » 4 jours après, quand la population est en train de virer folle, ben finalement, ils négocient avec les terroristes. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que pour moi, le problème de la culture est dans la manière dont ils exercent son pouvoir d'influence. Pourquoi est-ce que les compagnies d'avions ou automobiles obtiennent autant de choses? Très certainement parce que des gens importants dans ces industries ont accès aux oreilles des gens qui prennent des décisions. Alors, comment est-ce que ça arrive? Est-ce que ce serait par hasard du lobbying? Est-ce que ce serait par hasard des campagnes de communication? Est-ce que ce serait par hasard des campagnes de pub? Est-ce que... Peu importe. J'ai mon idée, vous avez la vôtre, là, mais ce n'est absolument pas ça qui est important. L'important, c'est que les gens de la culture, donc des gens créatifs, ont devant eux un modèle qui fonctionne. Prenons le modèle de l'aviation, l'influence que le secteur de l'aviation ou automobile peut avoir sur les gouvernements. Ben, utilisez-le. Je vais donner un bête exemple. Si fallait donner 10 millions par année à des lobbyistes pour qu'ils continuent de parler dans l'oreille du gouvernement pour inciter à ne pas oublier l'importance de la culture. Super cher, 10 millions par année. Mais tu sais, si tu as une fois une subvention de 250 millions, comme c'était le cas pour certaines compagnies d'aviation, eh ben c'est 25 ans qui viennent de valoir la peine maintenant. Et quand on sait que le rapport de 1 euro investi revient à peu près à 10 euros reçus, si on prend l'exemple du Québec en 2018, eh ben voilà, tu t'es remboursé tes 250 millions, puis tu as un impact après dans le monde de la culture. Le problème, c'est qu'il faut s'organiser. Il faut qu'il y ait des porte-paroles. Cet argent, il va venir d'où? Qui va organiser le groupe? Je prends un exemple tout simple, mais moi, en tant qu'auteur, je suis avec un organisme qui s'appelle la SABAM. La SABAM, c'est elle qui perçoit mes droits d'auteur. Je sais qu'en Belgique, il y a la SACD, il y a des sociétés d'auteurs un peu partout. Mais la SABAM va récolter des dizaines de millions de dollars par année. S'il y a une décision collective des artistes de la SABAM, par exemple, et de la SACD, de prendre un pourcentage. Chacun prend un pourcentage du revenu qu'il devrait toucher. Encore une fois, j'en sais rien, peu importe. Disons 1%. Et ce ne sont que des modèles théoriques. Et tu dis, ah, mais tiens, nous à la SABAM, nous à la SACD, on a réussi à mettre tant de millions de dollars de côté et on va totalement les investir dans du lobbying. Est-ce que ça, c'est pas une piste? Et ne m'arrachez pas la tête, hein, si vous n'êtes pas d'accord, juste dites-le moi. Mais je crois que la difficulté que les artistes ont d'utiliser des formules qui existent déjà, c'est que par définition, c'est quelque chose qui est un peu dégoûtant quand t'es artiste. T'as pas envie de faire un film comme t'as vu 100 fois. T'as pas envie de refaire un livre comme t'as vu 100 fois. On les connaît forcément les méthodes, on les connaît les trucs de narration, et on a toujours ce réflexe de vouloir mettre une twist différente, faire quelque chose de différent, penser autrement. Ben, il y a peut-être temps de penser comme tout le monde et de faire ce que les autres font et qui fonctionne. Parce que pour l'instant, on est coincé avec une image de mendiant qui se plaint, qui font un métier qu'ils aiment et qui voudraient être payés même s'ils n'ont pas de succès. Et quand on essaie d'alerter via la presse ou via des commentaires, l'impact est 10 fois moins grand qu'un secteur qui est 10 fois moins important que celui de la culture. Donc le constat numéro 1, ça marche pas. Constat numéro 2, il y a des recettes qui marchent. Constat numéro 3, pourrait peut-être essayer. Enfin, bref, j'avais envie de lancer une piste de réflexion et je crois que jamais tout ça va fonctionner s'il n'y a pas des leaders d'opinion qui se lèvent. T'en prends un par secteur. Je ne veux pas nommer des gens dans le sens qu'ils n'ont rien demandé, ces gens-là. Mais en Belgique, par exemple, t'as un chroniqueur dont un des billets a attiré jusqu'à l'attention de la première ministre qui a réagi sur Facebook. Pourrait peut-être être une bonne personne. T'as une autre chroniqueuse qui vient de faire un papier justement sur le fait de parler d'artistes subsidiés, c'est assez insultant parce que tes bagnoles, tes trains, tes compagnies d'avions, tes journaux sont subsidiés. Et on le dit pas, subsidié, c'est péjoratif pour un artiste parce que ça fait pas foutu de se débrouiller par lui-même alors qu'il est loin d'être seul dans son cas et qu'encore une fois, investir un euro dans la culture est payant. Genre, si t'es que mercantile, tu vois le pays comme une entreprise, c'est prouvé que c'est payant. Voilà. Il y a des propriétaires de théâtre, je sais en Belgique, qui sont assez expressifs, assez vocales pendant cette période de la crise, qui ont des bons réseaux aussi, qui pourraient peut-être faire quelque chose. Je suis convaincu, je connais un peu plus la Belgique, que c'est une dizaine de personnes du côté de francophones belges se réunissent, se disent, tu sais quoi, on va jouer, on est dans une même partie, mais eux ont un super équipement, genre, on est en train de faire une course de F1, mais nous on est en pédalo sur la piste, ça va pas. Ben, on va aller s'acheter une F1, on se met en groupe, on trouve une manière d'acheter une F1, et puis là on verra. Le nerf de la guerre est super simple, tu veux avoir de l'argent? Si 100% de la population est d'accord avec toi, tu vas en avoir. C'est les gens qui prennent les décisions, les gens qui sont en poste pour et qui ont le pouvoir sont d'accord avec toi, tu vas avoir ce que tu veux. Tout doit être fait pour mettre la pression sur un de ces deux axes-là et ça va bien aller, je pense. Fin du mode brouillon. J'espère que ces réflexions-là seront utiles. Encore une fois, c'est moi qui va sauver la journée. Fatigant être un super-héros tout seul dans son sous-sol à faire des podcasts. Putain, financer les podcasts, moi aussi j'ai envie de faire plein de thunes. Allez, financez mon génie. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi. Et ben, vous pouvez toujours suivre encore une fois, vous abonner sur Spotify, sur Patreon. Et une nouveauté, s'il y a des gens dans votre entourage qui galèrent un peu avec les podcasts, j'ai reçu pas mal de messages en ce sens, ben, j'ai commencé à mettre les épisodes sur YouTube aussi. Comme ça, voilà. Ben, t'as juste bêtement le logo puis ça diffuse. Mais si tu veux mettre ça en fond sonore ou si quelqu'un veut le découvrir, n'hésitez pas à lui passer le mot. Ok, bye bye.